Patrick Boult. Moi, je m'occupe pas tellement de technologie industrielle, mais de problèmes d'emploi. Et je trouve que cette soirée est très intéressante parce que dans le paysage un peu marqué de sinistrose actuel, d'entendre une histoire industrielle comme ça, c'est quand même assez réjouissant. Une question pour savoir, à propos de l'environnement financier et actionnarial, comment s'est posée la question dans les systèmes de décision? Voilà, l'actionnariat a suivi et je m'excuse, ça déborde le thème de votre livre sans doute, mais ça m'intéresserait de...
Vous avez la bonne personne dans la salle pour répondre.
Bon, l'actionnariat n'a pas été informé en amont. Et à vrai dire, peut-être que la gouvernance de Renault était très imparfaite, mais le conseil d'administration n'était pas consulté sur le plan produit. Il était consulté sur des enveloppes globales d'investissement, il n'était pas consulté sur le plan produit. Et donc cela faisait qu'il y avait une liberté totale du management de décider le plan produit et là où on investissait son argent.
Jean-Claude Griezmann, j'ai terminé en 2005 ma carrière chez Renault, mais dans un secteur amont par rapport au développement. Il me semblait me souvenir que dans l'équipe de conception de Logan, il y avait un certain nombre d'ingénieurs de conception roumains. Est-ce que c'est exact? Et si oui, de quelle manière la culture qui était la leur a-t-elle pu transfuser auprès de leurs collègues français? Car, monsieur Dos, vous disiez qu'une grande partie de la conception s'était faite en France, mais il me semble qu'un certain nombre de ces ingénieurs étaient venus de Roumanie, mélangés avec leurs collègues français sur le technocentre.
Sur le projet Logan, au départ, il y avait une équipe tripartite. Il y avait beaucoup de Français, quelques Roumains et un bureau d'études italien. C'était les trois qui étaient impliqués là-dedans. Mais les Roumains étaient très peu nombreux. D'ailleurs, c'était difficile d'en envoyer parce qu'on avait perdu l'essentiel de notre bureau d'études à Roumanie. À la sortie de la Nova, ils étaient tous partis au Canada et aux États-Unis. Donc, ils sont revenus depuis, mais à l'époque, ils étaient partis.
Enfin, quand on fait l'histoire démographique du programme Logan, on voit qu'il y a quand même une progression du caractère international de l'équipe du début à aujourd'hui. C'est-à-dire que le pourcentage de gens qui sont à la fois de Roumanie, du Brésil, etc., il y a une culture d'internationalisation qui se développe aussi du fait qu'il y a des dérivés qui sont conçus pour des pays donnés.
Bonsoir, Damien Demeilly. Donc, je travaille à l'IDRI, qui est l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. J'ai deux questions. La première, c'est qui achète la Logan, en fait ? Parce qu'on part un peu du principe que ce sont les ménages modestes qui achètent la Logan. Moi, je n'ai pas pour ambition d'être statistiquement significatif, mais autour de moi, les gens qui ont acheté les Logan, ce ne sont pas des ménages modestes. Ce sont des gens qui, on va dire, ont tourné le dos à ce que M. Mogis appelait le machisme automobile, ou je ne sais pas. Donc, est-ce qu'on a des données là-dessus ? Les acheteurs malins, voilà, c'est plus positif. Donc, est-ce que vraiment les ménages qui ont acheté la Logan étaient des ménages modestes, oui ou non? Parce que si ce n'est pas le cas, finalement, peut-être qu'il faut rajouter un point à votre liste d'innovation. Là, des innovations de production, de distribution, c'est également peut-être une innovation en termes de mode de consommation. C'est peut-être ça également la rupture de la Logan. Et deuxièmement, j'aurais aimé avoir quelques informations complémentaires sur le débat politique qui, j'imagine, a dû saisir la classe dirigeante à l'époque du lancement de la Logan. Moi, je me mets à la place du ministre du redressement productif, s'il y en avait un à l'époque. Il doit un peu s'inquiéter. J'imagine peut-être qu'il devait un peu s'inquiéter pour les questions d'emploi. Pour les questions d'emploi, parce que là, monsieur parlait d'une success story pour l'emploi, je ne suis pas sûr. Enfin, moi, je me mets à la place de monsieur Montebourg. Donc, si l'objectif, c'est de maintenir l'emploi dans le secteur automobile, il faut, pour faire face à la concurrence des pays à bas coût, point 1, et 2, pour faire concurrence à la saturation un peu du marché automobile, j'ai intérêt à de plus en plus ajouter de la valeur. Finalement, c'est une logique un peu inverse. Donc, je me demande en gros, là, est-ce qu'il y a eu un débat soit dans la classe politique, soit parmi les syndicats, pour s'inquiéter de l'impact sur l'emploi de cette stratégie low cost?
Alors, deux réponses, mais il y a certainement des gens qui peuvent répondre aussi beaucoup mieux que moi. D'abord, en marketing, on cible un cœur de cible, et puis ensuite, la voiture se vend, ou le produit se vend à ceux qui veulent bien l'acheter. On n'a pas ciblé la Logan pour les bobos qui ne s'intéressent pas à la voiture, mais veulent quand même se déplacer avec une voiture qui soit une vraie voiture et qui ne tombe pas en panne, et voilà. Dans lesquelles on peut mettre les cannes de golf, c'est ça. Donc, ce n'était pas le cœur de cible. Ce qui ne veut pas dire qu'après, une fois que, si ça rencontre une tendance,
je dirais, et c'est clairement une tendance. Il y a eu plusieurs débats, notamment il y a eu un débat il y a un an sur la voiture électrique, il y avait Patrick Pellata, 2 ans, voilà. Je veux dire, le fait que la symbolique de l'automobile en a pris quand même pas mal un coup dans la figure dans le monde occidental, c'est quelque chose qui est beaucoup plus contraint, beaucoup moins jouissif, etc. Et donc il y a des gens qui ne sont pas prêts à mettre autant d'argent qu'autrefois dedans. Ça, c'est une réalité. Hein. Mais ce n'est pas pour autant que la voiture a été pensée pour ces gens-là. Hein. C'est classique en marketing. On conçoit pour un cœur de cible, et puis derrière, il y a un halo. Bon, la Twingo, ce n'était pas réussi. Monsieur Deboeuf, peut-être pour répondre là. Qui a acheté là?
Je peux vous compléter un peu la réponse. Il faut bien différencier entre Logan... Pardon, je suis Arnaud Deboeuf, je m'occupe du programme. J'ai l'héritage de tous ses prédécesseurs glorieux qui sont là. On faut différencier entre Duster et Logan. Il faut bien comprendre que Duster ne va pas forcément faire partie des chiffres que je vais vous donner. Donc on va se concentrer sur Logan. On a d'abord des gens qui sont plus jeunes que la moyenne, qui sont 2 à 3 ans inférieurs à la moyenne des gens qui achètent une voiture pour la première fois. Des familiaux, on a 38% des clients qui sont en famille, enfin qui ont encore une famille qui est pareil, 10% de plus que la moyenne du marché. Des gens qui sont quand même CSP-, donc qui sont 10% aussi en dessous de la moyenne. Je ne parle pas des chiffres de Renault, hein, je parle de la moyenne automobile et Dacia est 10% en dessous. Et autre critère, quand vous les interrogez, que vous leur demandez pourquoi ils ont acheté la voiture, quand même, il y en a 80% qui ont mis le prix comme première raison d'achat. Faut savoir que dans l'automobile, en moyenne, c'est 26%. Donc on est quand même très décalé par rapport aux gens qui achètent de l'automobile. Et sinon, d'où ils viennent? Ils avaient une voiture d'occasion, une voiture avant, pour plus de 50%, ils avaient une voiture d'occasion. Et ceux qui avaient une voiture neuve l'avaient depuis plus de 10 ans. Donc c'est des gens qui avaient gardé leur voiture très très longtemps. Tout ce que je vous donne là, c'est vraiment pour les gens qui ont acheté une Logan. Duster est atypique. Duster est beaucoup plus dans... Les gens en Normandie n'ont pas forcément le même profil que qui ont moyen de la Logan.
Deux petits compléments. Un, il n'y avait pas de vrai cœur de cible marketing parce que le marketing pensait que la voiture ne se vendrait pas. Je me souviens d'une colère que j'ai prise en 2004, donc après la présentation à la presse, où on m'annonçait que les ventes de 2005 ne dépasseraient pas 80 000 parce qu'il n'y aurait pas de clients. Donc, au fond, il y a eu très peu d'études marketing ex ante. Ex post, on a fait bien. Et le marketing pensait que le fait qu'on fasse une voiture dont on affiche qu'elle n'était pas chère ferait fuir les gens. Vous savez, c'est le célèbre truc, plus c'est cher, mieux c'est. Et au fond, la surprise pour nous, et ça a été une surprise pour nous, c'est l'enthousiasme qu'a causé Logan en France au moment de son lancement. Pour moi aussi, ça c'était une surprise. Sur l'autre question, là, je peux dire, il n'y a eu aucun débat politique et il n'y a eu... Dans mon souvenir, pas de réserve syndicale sur le fait de faire Logan là où on la faisait, parce qu'il était clair que ce n'était pas un concurrent de Renault, et je crois que les résultats l'ont confirmé, et qu'on ne pouvait pas faire cette voiture ailleurs que dans une usine à bas coût de main-d'œuvre et très peu automatisée, parce que le risque d'échec était trop grand pour qu'on puisse se payer un investissement lourd d'automatisation.
Mais un point important, c'est que c'était vraiment une arme de croissance à l'international dans des endroits où Renault n'était pas, je dirais, bien implanté. Donc, je veux dire, on n'est pas du tout dans la logique d'une délocalisation pour refaire venir une Clio ou je ne sais pas quoi sur le sol français. Ce n'est pas du tout le même problème que les délocalisations qui sont contestées. Voilà.
Oui, bonsoir, Sylvain Bilaine. Je suis consultant spécialiste de l'industrie automobile en Inde. Et l'ancien patron du projet Logan en Inde. Il y a une chose qui est très importante qui a été dite par M. Dawes, qui est le mot reverse innovation ou innovation frugale. Il y a un très beau livre qui vient de sortir qui s'appelle Reverse Innovation de Govinda Rajan, qui est un consultant de General Electric, un Indien américain. Et je pense qu'il décrit une chose qui est cruciale dans le comportement des entreprises multinationales vis-à-vis de l'export. Le premier niveau, qui est le niveau zéro, c'est le niveau « j'exporte pas parce qu'il n'y a que des pauvres ». Le niveau 1, c'est « j'exporte des produits de luxe pour des gens riches ». C'est le Carré Hermès, c'est le cognac XO. Le niveau 2, c'est le niveau « je vais leur exporter des vieux produits parce qu'il y a une petite classe moyenne qui va grossir dans le futur ». C'était la 309 de Peugeot, par exemple. Le niveau suivant, c'est « je dessine des produits ad hoc » parce que les gens vivent dans un monde qui est tellement différent que nos produits ne sont pas adaptés à leurs besoins. Et je pense que dans la remarque de M. Mogis sur l'injection et toutes les composants que Bosch a développés pour la nano, on a un très bon exemple. Et General Electric a un exemple avec ses électrocardiogrammes et ses produits médicaux. Et je dirais le niveau 5, c'est puisque j'ai réussi à développer des produits pour un monde émergent, par des émergents, pour des besoins du monde émergent, je suis capable de trouver dans mon monde occidental ou émergé des clients qui ont plus envie des 250 boutons sur un tableau de bord, qui n'ont plus envie d'avoir des calculateurs pour leur voiture. Et je pense que quand on reprend ces cinq étapes, la Logan, elle est au niveau 4 et elle est revenue en Europe, alors par ruse ou par accident. Et finalement, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant dans la Logan, c'est que c'est un vrai produit de l'innovation inverse ou de l'innovation frugale, même si le développement a été fait par des ingénieurs essentiellement français et en France.
Pardon, il y a un point qui n'a pas été dit, c'est qu'en plus, c'est un programme très rentable, si j'ai bien compris. On avait voulu faire de l'argent avec des véhicules pas riches, mais en plus, c'est un produit très très rentable, ce qui aujourd'hui en France est quand même quelque chose d'assez rare, si j'ai bien compris.
Oui, bonsoir. Alors, Céline Ferrand, je suis étudiante, et en fait, je voulais savoir si Renault aimait en fait sa Logan dans son entier, parce que oui, c'est un produit rentable, c'est des ventes qui sont remarquables, c'est une démonstration de la faculté de Renault d'innover. Mais est-ce que ça n'a pas un risque sur peut-être une cannibalisation indirecte, puisqu'on a vu que les acheteurs de la Logan étaient en fait des acheteurs plutôt d'occasion auparavant. Et sur l'image de marque de Renault aujourd'hui aussi, est-ce que ça n'oblige pas Renault à aller vers un peu plus de premium ou à se différencier ou à se renouveler en fait?
Alors, un point très très important, c'est la bimarque. C'est le fait que Dacia a permis de bien différencier, d'éviter, je dirais. C'est vrai que c'est ce débat sur ça va polluer l'image de Renault, ça va nous faire descendre dans le low cost, etc. C'est un débat qu'il y a eu en permanence du début à la fin. Mais le fait qu'il y ait une marque qui s'autonomise et qui prenne, elle, beaucoup de valeur en très peu de temps, on a bien vu que les problèmes de Renault n'étaient plus les problèmes de Dacia. Les problèmes de Renault, c'est Renault. C'est les produits Renault. Et Dacia, c'est pas pareil. Autre chose, l'image, etc., se fabrique quand même beaucoup par la com, par la communication. Et premièrement, Dacia n'avait pas besoin énormément de com puisque la voiture se vendait sans ça. Donc il n'y a pas eu, je dirais, des flots de communication institutionnelle pour fabriquer une image de marque très forte. Elle se faisait toute seule, de bouche à oreille par les clients qui achetaient, qui voyaient que la promesse était tenue, etc. Donc, voilà. Alors, ceci dit, enfin, dans le bouquin, il y a un moment où on parle justement du problème de la communication de l'entreprise. Et dans le monde automobile, c'est quand même assez difficile d'avoir une communication sur une voiture qui correspond à la tendance que monsieur vous décriviez il y a deux minutes. La communication, c'est plutôt motion and emotion, enfin bon, c'est des trucs qui correspondent aux 6 cylindres, aux 8 cylindres, etc. À mon avis, c'est un problème pour les communicants de réussir à parler d'une image de marque sur une voiture où vous ne dépensez pas quand vous l'achetez, mais elle est bien pratique. C'est vraiment un challenge extraordinaire. Alors, quand on regarde les pubs de Dacia, c'est un peu des pubs sur justement l'acheteur malin, etc. Mais c'est un peu tarabiscoté. C'est, à mon avis, beaucoup plus difficile pour une direction de la communication que de faire quelque chose sur un superbe style extérieur ou la voiture qui se gare toute seule, ou, etc. Donc c'est vrai que, à la fois parce qu'il n'y en avait pas besoin et parce que c'est très difficile, la communication de la marque a été beaucoup moins forte que sur d'autres. Ben, par exemple, quand on voit sur la communication du groupe Renault depuis des années, c'est essentiellement le véhicule électrique ou les grands produits comme la Clio. Dacia n'apparaît pas, pratiquement pas. Mais parce que c'est pas facile, je pense, dans l'univers un peu symbolique de l'automobile. D'où le fait d'ailleurs que Renault ait voulu communiquer d'une autre manière par le bouquin. Non mais en invitant des académiques à faire l'autopsie du succès. Non mais c'est un mode de communication très différent de la communication classique de l'industrie automobile. Et J'en profite pour dire que Renault a fait un bouquin spécial, qui est très bien d'ailleurs, je ne sais pas s'il y est quelque part, pour sa com interne, à partir du bouquin que nous avons réalisé.
Oui, bonsoir, Christian Rousseau, Renault. Pour revenir au titre de cette conférence, « Faut-il aimer le succès de Logan ?», y aurait-il des arguments ou des éléments qui pourraient militer à ne pas l'aimer ?
Ben, écoutez, depuis quelques années, j'entends souvent, je discute avec des uns et des autres, des patrons, pas vraiment des politiques, mais j'entends souvent des gens qui disent... Ils sont quand même gonflés chez Renault. C'est-à-dire de dire, voilà, on est dans une situation difficile et qu'est-ce qu'ils ont fait chez Renault ou qu'est-ce qu'il a fait chez Schweitzer, j'ai même entendu ça. Investir, lancer un véhicule qui est construit à l'étranger, puis maintenant ils vont au Maroc. Quand Renault a inauguré son usine au Maroc, on a quand même entendu des vives critiques. Et moi, j'ai entendu plusieurs fois, alors récemment, bien sûr, alors avec maintenant qu'il y a un ministre du redressement productif, on se demande où est passé le redressement productif français dans l'aventure de Logan. Mais j'ai entendu quand même depuis 3-4 ans des gens qui disent « Mais Renault, ils exagèrent, ils ont pris la mauvaise voie, il faut fabriquer de la valeur ajoutée en France, donc aller vers le premium, etc. Regardez ce que fait Volkswagen. » J'ai entendu plusieurs fois des gens en off qui disaient « Je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas, ce n'est pas le rôle d'une entreprise nationale ou du moins qui avait un destin national. » C'est pour ça que j'ai proposé ce titre. Puis je me suis dit qu'un titre un peu interrogatif ferait venir un peu plus de monde qu'un titre plat.
Donc Guy Ferré, je reviens à une slide que vous avez présentée où il y avait visiblement des objectifs pour réduire les coûts de fabrication, les coûts d'industrialisation et les investissements. Je me souviens plus exactement du vocabulaire. Est-ce qu'il y a aussi des objectifs pour baisser les coûts de marketing et les coûts de distribution commerciale ? Parce que moi, je ne connais rien à l'automobile, mais à en juger par ce que je vois dans les journaux, à la télé et les concessions qu'il y a partout dans nos zones industrielles, je pense que tout ça doit coûter quand même beaucoup d'argent. Et là, pour être plus spécifique, je vais essayer de pointer un ou deux points sur chacun de ces aspects-là. Bon, on n'en parle jamais, mais j'ai le sentiment que Renault a un certain génie pour occuper des territoires de communication. Je me souviens au moment de la Twingo, de ce coup de génie qui avait fait croire à tout le monde qu'enfin on allait avoir une voiture qui avait fait l'objet d'un design industriel, comme si c'était quelque chose de totalement nouveau. Là, j'ai l'impression que le territoire du low cost a été bien occupé, alors que je ne suis pas de l'extérieur absolument convaincu que Logan soit la seule voiture low cost qui soit sortie dans le monde depuis la guerre. Bon, est-ce qu'il y a eu de l'argent dépensé pour faire passer ça ? Et puis, pour ce qui concerne la distribution, je me demande toujours, quand je vois dans ces zones industrielles un bâtiment qui était Renault, qui a été coupé en deux avec Renault d'un côté et Dacia de l'autre, s'il n'y avait pas un truc à trouver pour distribuer cette voiture autrement.
Sur les coûts commerciaux, c'est à peu près 30%, hein, le prix de revient jusqu'au client, les coûts. Ouais. Et pour la Logan, ça a été complètement comprimé, bien sûr. Mais ça participe d'un modèle économique où quand vous vous situez à 30% moins cher en prix et que vous êtes rentable à ce prix-là, vous n'avez pas besoin de faire des rabais pour réussir à fourguer, si je puis dire, des voitures qui sont sur ce qu'on appelle des océans rouges, c'est-à-dire qui sont tellement concurrentielles que vous faites le tour des succursales de, si vous êtes à côté de Paris, et puis vous faites baisser 10, 12, 13, 14, 15%. Là, ça ne marche pas.
Oui, bonsoir, donc Alexandre Parinusian de Dassault Systèmes. Je voulais aller sur une petite anecdote que j'ai eue par donc, les gens qui s'occupent du réseau chez Renault et Dacia, qui concernait le poste vendeur et l'acte de vente en lui-même, parce qu'on parlait effectivement de la notion de vente de ces véhicules. Il y avait un ratio d'efficacité qui était meilleur par vendeur sur la vente autour des Logan. Et la question s'est posée de se comprendre pourquoi. Et un des éléments, c'était en fait que l'acte de vente se faisait autour de la voiture. Donc c'était une des vertus de la simplification. Le vendeur connaissait son véhicule, parlait de son véhicule autour de la voiture, alors que le vendeur côté Renault, par la complexité en fait de l'offre, se retrouvait derrière le poste vendeur qui lui physiquement était bien sûr derrière un bureau, ce qui faisait un acte de vente un peu différencié. Donc les vertus de la simplification en fait de l'innovation conceptuelle étaient aussi jusqu'au bout et descendues jusqu'à effectivement l'acte de vente qui est revenu sur le autour du véhicule. Ça m'interrogeait sur une question, particulière remarque de M. Schweizer sur le fait que le marketing n'y croyait pas. En gros, disait que c'est un produit qui a été conçu dans un objectif marché. On a bien saisi la performance de la robustesse et de la simplification et du concept qui est derrière ce véhicule. Ma question, c'est y a-t-il eu des actes de discussion avec les acheteurs potentiels ? C'est-à-dire qu'à un moment donné... Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le dénommer, mais est-ce que l'acheteur roumain, celui qui est l'identité de l'acheteur, est se poser la question de dire, parce que je simplifie mon véhicule, parce que je vais à l'essentiel, est-ce que je ne vais pas trop à l'essentiel ? C'est-à-dire, à la mondaine, est-ce que je ne perds pas mon acheteur ? Et je fais le parallèle avec la Tata Nano, on en a parlé, où effectivement, à un moment donné, la Tata Nano, en fait, elle n'a pas séduit, parce que pas assez cher, et ne correspond pas, en fait, à un acte d'achat... indien dans lequel l'achat de la voiture est aussi un achat d'image vis-à-vis de ses voisins, vis-à-vis de son environnement.
C'était très amusant parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2000, la Roumanie n'était pas forcément une terre d'accueil, déjà à l'époque. Et donc, on avait d'énormes problèmes de sécurité, mais on a fait venir deux protos à Bucarest pour faire des cliniques auprès des clients. Et donc, il a fallu mettre en place tout un système de sécurité parce que tout le monde était persuadé qu'on allait nous piquer les voitures ou nous prendre des photos sur le chemin entre Timișoara et Bucarest. Donc, mais ceci étant dit, ce qui avait été très amusant dans cette voiture, c'est qu'aucun des clients, et ça a duré une semaine, hein, je ne sais combien de clients potentiels, aucun de clients ne nous a cru quand on lui a annoncé le prix du véhicule. Il pensait que c'était beaucoup plus cher que ça.
Enfin, quand on regarde l'accueil de l'Entry dans les différents pays, hein, il a été... Il n'a pas été toujours aussi homogène. Par exemple, en Inde, ça n'a pas été facile. C'est-à-dire que c'était un positionnement qui n'a pas plu. Hein. Bon. Quand on voit au Brésil, au départ, la direction commerciale Brésil a dit « Je ne veux pas d'un tricor, il me faut absolument un bicor, etc. » Et puis ensuite, donc il y a eu la Sandero qui a bien pénétré au Brésil. Et ensuite, en fait, le tricor s'est vendu. Et le tricor a inventé ex post un segment qui n'existait absolument pas au Brésil, qui était ce type de voiture. Voilà. Donc, on est dans des innovations un peu de rupture qui sont très difficiles à anticiper en demandant aux gens ce qu'ils veulent. Et il ne faut surtout pas demander au patron de succursale ou du réseau commercial qui va vous reproduire immédiatement ce que les concurrents font autour de lui. Et donc, vous ne sortirez jamais avec une voiture originale, typée différemment, etc. Hein ? Quand on dit agilité, fluidité, réactivité de la direction programme par rapport à tous les marchés, ça n'est pas j'écoute mon client, j'écoute mes régions et je leur donne ce que je veux. Surtout pas, parce qu'ils voulaient tous des trucs équipés. Enfin bon, ça a été un débat... parfois un peu musclé, et la direction de projet est justement musclée, de programme est justement musclée. Et elle a pu, comme ça, à la fois discuter, avoir une dialectique pour réussir à mettre dans les pays des produits qui, a priori, ne correspondaient pas forcément au focus group et aux choses comme ça.
Jacques de Nantes. Moi, je suis très âgé et en entendant tout ce débat, je pense que il y a eu un précédent de véhicule qui avait ses qualités de simplicité, robustesse et fiabilité, et c'était la 2 chevaux Citroën, et qui malheureusement n'a pas eu, semble-t-il, de suite. Et alors, au fond, je demande aux gens de Renault, est-ce que vous avez trouvé là des inspirations, est-ce que vous avez repris des idées qui avaient fait la qualité, le succès de cette 2 chevaux ?
On a parlé de la Ford T tout à l'heure. Il y a eu la Ford T, il y a eu la 2 chevaux, il y a eu la R4, la 4 chevaux. Mais je dirais chaque période historique a des spécificités dans le mode de transport, etc., qui fait que reproduire la Logan n'est pas la deux chevaux d'aujourd'hui. Il faut renouveler le concept. Bien sûr, il y a des choses qui sont communes. Le fait de rattaquer un marché par le bas, de faire d'une voiture simple, etc. C'est ce qu'a fait Ford, effectivement, avec la Ford T. La R4, voilà. Bon. Mais il faut une réinvention à chaque fois pour tenir compte des spécificités de l'époque, des clients. Voilà.
Jean-Louis Barbier, chercheur associé à l'École Polytechnique. Question pour Christophe. Tu as démontré de manière convaincante que Logan était une forme de révolution. J'ai le souvenir que Michel et Thomas ont invité Patrick Le Caiman dans un séminaire création de l'École de Paris il y a quelques années. Et Patrick Le Caiman avait dit « Dans l'automobile, les révolutions s'arrêtent à la porte d'entrée des concessions. » Alors, ma question est-ce qu'à ton avis, il y a un intérêt, et si oui, un espace, pour utiliser par exemple la méthode CK, à repenser aussi le système de distribution?
En l'occurrence, je pense que ce n'était pas la peine. En termes de distribution, et je réponds un peu... la stratégie Logan, c'était la stratégie du coucou en distribution. C'est-à-dire, je prends quelques mètres carrés des distributions Renault, ça ne me coûte pas très cher, c'est facile à vendre. Dans tous les cas, c'est les clients qui viennent acheter. On n'a pas besoin de pousser les produits. Voilà. Ce n'est pas la peine de faire une révolution. Là où je pense qu'il y a une autre lignée qui a besoin d'une révolution commerciale, c'est le véhicule électrique. Parce que le véhicule électrique, c'est quelque chose où expliquer le produit, ce n'est pas évident. Hein. L'expérience Logan... Vous l'avez tout de suite quand on vous dit que c'est 30% moins cher que la même, mais plus cher. Donc, la notion d'expérience, truc, c'est facile. Le vendeur, il sait faire. Bon. La voiture électrique, oula, vous achetez un truc, mais où est-ce qu'on branche, etc. Bon. Là, il y a une vraie révolution commerciale où c'est clair que si une succursale normalement constituée, si on lui demande en même temps de vendre des Clio 4 avec un objectif de nombre fort et puis de vendre des Zoé, le vendeur, il va faire un peu plus de Clio 4 que de Zoé, parce que c'est beaucoup plus compliqué, ça ne paye pas. Voilà. Je pense que Dacia, il n'y avait pas besoin. Mais le véhicule électrique, oui. Là, il y a vraiment à faire de l'invention, de l'innovation commerciale forte.
Dans ce que j'ai lu dans le livre, je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup d'astuces, voire de ruses, pour utiliser le réseau commercial Renault pour placer des Dacia. Au début, on avait un petit coin, puis au bout d'un certain temps, après, je pense quand les affaires de Logan marchaient mieux, je pense qu'ils payaient un loyer. Et puis, moi, mon concessionnaire favori est un concessionnaire Renault à côté de chez moi. Je sais qu'au début, quand il y avait une Logan, c'était vraiment dans un coin. Maintenant, c'est plutôt les Renault qu'il faut chercher chez lui. C'est pareil, la Zoé, j'ai essayé de parler de la Zoé avec lui parce que je trouve que c'est un véhicule désirable. C'est pas encore gagné. Bon. Mais il y a eu, je trouve, dans la démarche commerciale, Christophe dit ça se vendait tout seul, je ne sais pas, mais enfin, ce que j'ai vu dans le livre, c'est qu'il y avait vraiment une astuce, des astuces pour utiliser le réseau des concessionnaires sans trop déranger. Puis plus le projet montait en puissance, plus on s'affirmait. Puis je crois qu'au bout d'un moment, Logan payait ses surfaces, c'est ça.
Attention à ne pas avoir un biais franco-français pour une voiture qui est une voiture mondiale. Je veux dire, la grande force de la Logan, c'est d'avoir permis de monter des réseaux et de faire vivre des réseaux dans des pays où Renault tout seul n'avait pas assez de chiffre d'affaires pour supporter des affaires. Et donc là, la grande force de Dacia et Renault en Russie, par exemple, ça a été de permettre de constituer des réseaux partout. Beaucoup, hein, de les rentabiliser. Et puis après ça, on peut mettre des Renault dedans. C'est la cerise sur le gâteau. Mais le matelas de chiffre d'affaires, il est fait par Logan. Donc je crois que c'est très important de ne pas voir le rôle du réseau vis-à-vis de la Logan. Il y a la France et puis il y a l'export. C'est vraiment symétrique. Quoi. Hein, c'est au Brésil et partout. C'est aujourd'hui Renault qui... C'est Dacia qui aide Renault, si je puis dire. Il faudrait... j'ai pas, là. Mais M. Debeuf a certainement ça.
On est à inférieur à 10% en France. C'est pour ça qu'on est assez à l'aise quand on rencontre Arnaud Montebourg. La Logan représente moins de 10% des ventes en France par rapport à tout ce qu'on vend dans le reste du monde.
Vous voyez le réseau avant et après.
Oui, bonjour, Gilles Gabridin. Donc, je dirige Home Concept. C'est une société qui fabrique des bâtiments et pas des voitures. Mais je connais bien les voitures aussi. J'ai même travaillé un petit peu avec Christophe sur une thèse il y a très longtemps chez Renault. Alors, moi, je me pose la question suivante. Compte tenu de l'histoire de la Logan, est-ce qu'il serait si facile que ça de refaire chez Renault la même chose aujourd'hui? Car enfin, si on regarde bien, Logan est arrivé un peu par effraction ou à tout le moins un peu masqué. C'est-à-dire qu'au début, on a expliqué que ça serait fait ailleurs, que ça ne serait pas vendu en France, que ça ne coûterait pas très cher. Et de surcroît, personne n'y croyait. Les ingénieurs disaient on n'arrivera pas au prix de revient, les gens du marketing diraient on ne la vendra pas, etc., etc. Donc elle ne gênait pas grand monde quand elle était développée. Or maintenant, le succès est là, il est démontré. Et là, je comprends un petit peu l'embarras de tout un tas de concurrents pour dire est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Alors, M. Schweitzer nous a expliqué que pour faire Logan, de toute façon, c'est une poignée de gens parce qu'il faut être un grand constructeur puisque c'est plein d'intelligence pour faire la Logan. Donc, une petite société ne peut pas du tout faire ça. Alors, à partir de là, est-ce qu'aujourd'hui, Renault, maintenant averti de ce qui peut se passer quand on prend ce chemin-là, avec le succès qu'on a vu, est-ce que Renault, aujourd'hui, serait capable de redévelopper sur un autre produit, bien sûr, quelque chose qui ressemblerait à la Logan?
Oui, mais il y a un projet. Le prédécesseur de M. Deboeuf, il est sur un projet qui est aussi un projet de rupture, encore plus bas que Logan. Enfin, c'est officiel, donc je ne diffuse pas de confidentialité. Donc, il y a des choses en route actuellement. Ça ne veut pas dire que ça va sortir, mais la tentative est là.
On arrive dans les temps. Alors, faut-il aimer le succès de Logan? Je pense que oui. On n'a pas eu le temps, évidemment, d'examiner tous les aspects, mais on a quand même fait un tour assez approfondi de la question. Vous pourrez continuer en lisant le livre.